Recto, verso. Vanessa Longepierre.
En cette journée de mai 2021, nous avons rendez-vous à Romans-sur-Isère avec l'artiste peintre Jean-Luc Boiré. C'est au dernier étage d'un petit immeuble, dans son atelier, qu'il me reçoit. La rencontre débute par la visite de son laboratoire. Là, il me présente ses différentes œuvres. D'abord, ses peintures colorées de vieilles godasses. Il me parle ensuite d'un ancien voisin et me montre des portraits plus sombres. Il m'explique le mélange des matières et la coloration par imprégnation sur papier de soie grand format. Puis vient la présentation de son book, illustration de première de couverture et dessin de presse, évidemment. Les Inrecuptibles, Alternative Internationale, L'Humanité et bien d'autres encore. Illustrateurs engagés de conviction sont très figuratifs à la volonté de restituer la réalité du monde dans lequel nous vivons. Tendre et dur à la fois. L'ambiance est calme. Nous nous installons désormais autour d'une table et Jean-Luc Boiré nous dévoile son parcours pour ce nouveau numéro de Recto Verso.
Recto Verso.
Installez-vous confortablement. Nous partons en confidence. L'équipage vous souhaite un beau voyage.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont raviées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
Premier morceau que j'ai aimé, entendu à la radio, enfin en tout cas c'est très lointain puisqu'il a été produit et il est paru en 1968, j'avais 4 ans, donc je suppose que quand je l'écoutais sur le poste radio qui diffusait RTL à longueur de journée dans la maison familiale, ça devait être dans ces eaux-là, donc j'étais tout petit. Et il y a d'autres morceaux, il y a un morceau de Jacques Brel qui s'appelle Vesoul, Et puis un autre morceau de Polnareff qui ont le même effet sur moi, c'est de me faire faire immédiatement un voyage dans le temps. Et la musique a ça de génial, c'est qu'elle nous permet de nous transporter dans l'espace-temps et de confirmer peut-être la théorie de la relativité d'Albert Einstein. En tout cas, celui-là, j'ai choisi celui-ci plutôt que Polnareff ou Brel. Parce que ben, je crois que je l'écoutais surtout dans la petite maison qui m'a vu naître, dans la Sarthe, un petit village sartois qui s'appelle Grez-sur-Roc, où mes parents avaient une petite exploitation agricole qui peinait à s'en sortir. C'était l'époque où il fallait prendre le train de l'industrialisation de l'agriculture et mes parents, je crois, l'ont loupé. Et en fait, bah, pour arriver à s'en sortir, mon père d'abord, ensuite toute la famille, on est allé en région parisienne. Il avait trouvé un petit appartement dans une petite cité de Beson, où il a emmené toute sa famille. Et voilà, c'était pour moi la découverte aussi d'un autre monde, parce que la différence dans les années 60 entre un petit village sartois et la grande banlieue tentaculaire de Paris, c'était quand même assez saisissant. Et je revivais ce dépaysement tous les week-ends, puisqu'ils avaient quand même gardé quelques vaches, hein, une petite parcelle de jardin, des prés pour faucher des herbages. Voilà, donc tous les week-ends, on prenait la voiture pour faire les allers-retours entre la Sarthe et Beson. Et autant dire que c'est un grand écart, voilà, c'est pas du tout le même monde, évidemment, on peut l'imaginer, encore plus dans les années 60 où bon, on n'avait pas tous les moyens de déplacement qu'on a maintenant. Le fait d'avoir une voiture, c'était quelque chose d'énorme déjà. Le téléphone, on l'avait pas non plus, et puis encore moins Internet. Donc c'était ouais, c'était une aventure assez étrange qui m'a longtemps perturbé dans mon parcours, mais dont j'ai compris à un moment donné de ma vie toute la richesse qu'elle pouvait contenir aussi cette expérience. Pour mes parents, il y avait du travail quand ils arrivaient le samedi et le dimanche. Et pour moi aussi, par conséquent. C'était l'époque où on faisait travailler les enfants. Du coup, à un moment donné, bah, je crois que dans mon esprit, pour moi, mon avenir, c'était plutôt la ville, plutôt que la campagne. Je ne voyais pas trop ce que j'avais à y faire. Bah, la suite de ma vie prouve que bah, je me trompais. Parce que je suis à la veille de m'installer dans une ferme à la campagne, bon, proche de Romans, mais il y a quand même une boucle qui s'est opérée en tout cas. Mais quand j'étais jeune, pour moi, c'était évident que la campagne n'avait rien à me donner, voilà. Et qu'il fallait que je fasse que je trace mon sillon dans la ville, dans le béton. On était quatre, j'avais une sœur, une grande sœur qui, elle, a vécu bah, les années 68 à l'époque de l'adolescence, donc autant dire que ça, j'allais dire, ça lui a offert des possibilités, mais en tout cas, ouais, ça a été source de tension aussi entre mes parents qui étaient d'une culture rurale et une jeune fille qui découvrait aussi ce qu'était bah, la modernité pour les femmes, quoi. La contraception, le fait de sortir avec des garçons sans pour autant que le papa soit au courant ou de choisir son mari, enfin voilà, c'était des choses qui étaient assez perturbantes aussi. exaltant, mais perturbant. Mon père, c'était quelqu'un qui était vraiment très, était tout le temps dehors. Et auprès, avec un amour de ces bêtes, comme il les appelait, ouais, ça me plaisait beaucoup, ça, de le voir. Je dis ça me plaisait beaucoup en même temps, pour moi c'était naturel. Et je me suis rendu compte après que pour certains agriculteurs qui, eux, ont pris le tournant de l'industrialisation, eh ben, cette relation aux bêtes, du coup, elle était devenue beaucoup plus anonyme. D'ailleurs, elles étaient toutes pareilles, alors que dans le troupeau de mes parents, elles étaient toutes différentes. Elles avaient un nom, il y avait les jeunes, il y avait l'ancêtre, la jaune, on l'appelait avec les grandes cornes. Enfin, c'était des animaux, des êtres vivants. Et mon père, il avait beaucoup d'affection pour ces... Quand une vache vêlait, c'était un événement, il se relevait la nuit. Dans la Sarthe, dans ces années-là, on n'exprime pas beaucoup ses sentiments aussi. Et puis quand on essaye de le faire, c'est des sottises. C'est ce que je me suis entendu dire, et puis ce que j'ai vu aussi autour de moi, c'est on est très une forme de pudeur, voire une forme de censure aussi, qui vise peut-être aussi à maintenir des choses établies. Et ce qui s'est passé dans les années 60, c'est quand même tout ça qui vole en éclats, et il y a une liberté d'expression qui arrive et qui donne le vertige quand on est né là où je suis né. Tout ce qui est culture, ça m'a été offert par l'école. L'école, c'était la région parisienne. Ça a été offert par le collège, et puis aussi par toutes les structures dans les villes communistes, les MJC, les centres culturels. Donc j'ai vu des trucs auxquels je ne comprenais pas grand-chose, des spectacles de marionnettes de pays de l'Est. Mais dans un théâtre où j'ai encore l'odeur de la moquette collée au mur, la pénombre, tous les éclairages, le côté solennel aussi, il ne fallait pas faire de bruit. Et ouais, ça a été vachement important pour moi, la découverte des spectacles, et puis tout ce qui était librairie, plutôt les bibliothèques à l'époque, les bibliothèques que je fréquentais, la bibliothèque de Beson. Et puis les musées aussi, dans un second temps, à l'époque du collège et du lycée. J'étais au lycée avant de commencer les études d'architecture, puis de les arrêter, puis de les reprendre, de les arrêter. D'aller finalement passer le concours des arts déco un peu par désœuvrement et puis de le réussir. J'avais passé ce concours avec un copain, et puis le fait d'avoir ce concours, pour nous, c'était déjà d'avoir réussi quelque chose, et on n'avait pas besoin de se taper encore 5 années d'études. Mais c'est vrai que comme je commençais déjà à être un peu âgé, par ailleurs, je ne me voyais pas trop passer encore 5 années à étudier. C'était l'époque où je découvrais une culture qui a eu énormément d'importance dans ma vie, qui venait une culture qui venait d'Angleterre, qui était le mouvement punk, qui a bouleversé pas mal de choses dans le monde, non seulement de la musique que j'écoutais beaucoup à l'époque, c'était plutôt du hard rock quand c'est arrivé. Le hard rock, alors ça c'était vraiment période lycée où tout le monde devait avoir inscrit sur son sac US le plus grand nombre de groupes possibles qui avaient tous des logos très intéressants à recopier. Et puis moi c'était une époque où finalement ouais, j'avais besoin de quelque chose qui me démarque un petit peu d'un univers dans lequel je vivais et qui ne finissait pas plus me convenir en fait. Les études, ça ne me convenait plus parce que j'avais été orienté dans un bac scientifique. Je ne vais pas dire de force, mais on m'avait fortement incité et on avait encouragé mes parents qui n'avaient jamais fait d'études à suivre cette filière parce que, soi-disant, elle allait m'ouvrir toutes les portes. Et finalement, moi qui aimais les études, ça m'en a dégoûté. Et je me suis retrouvé dans les 4-5 derniers de la classe que je n'ai pas du tout aimé. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment posé sérieusement la question de quoi faire de ma vie. Et c'est passé par un projet artistique qui n'était pas encore bien déterminé, mais il y avait le mot beaux-arts, les mots beaux-arts qui apparaissaient là-dedans et qui m'offraient quand même une échappatoire à cet univers dans lequel j'évoluais. Et puis des poursuites d'études qui ne me plaisaient pas du tout, maths sup ou maths spé, ingénieur, tout ça, ça ne me plaisait pas du tout. La gestion non plus, l'éco encore moins. Donc voilà, quand j'ai exprimé ce désir de faire les beaux-arts à mon prof de physique, quand on parlait orientation, il s'est un peu moqué de moi en me demandant si j'étais au bon endroit. Eh ben non, j'étais pas au bon endroit, effectivement, mais je m'en suis détaché. Heureusement, j'ai réussi à avoir mon bac, ce qui m'a permis de tourner la page. J'ai eu d'un point, je crois, grâce au dessin. Ce que je retiens de cette période, c'est quelque chose de l'ordre du gâchis, en fait, une mauvaise orientation. Et puis cette sélection qui s'opère dans les filières les plus prisées, ben, j'ai pu me rendre compte par la suite, parce que j'ai eu moi-même des enfants et j'ai vu autour de moi les dégâts que ça pouvait faire pour des gens qui aimaient la connaissance et l'apprentissage, de se retrouver dans des situations d'humiliation parfois. Et du coup, je trouve que ouais, c'est un gâchis parce que moi, personnellement, j'ai mis du temps avant de renouer avec le plaisir d'apprendre. Et je l'ai redécouvert sur le tard. Mais j'aurais préféré le vivre sur l'instant. Mes parents, eux, ils trouvaient ça super. J'ai des doigts en or, ils disaient, t'as des doigts en or. Mais en définitive, bah le fait de travailler l'image et très tôt être attiré par le dessin et de passer des heures à dessiner, ça me permettait de recoller les morceaux aussi, peut-être du personnage un peu en morceaux que j'étais, un coup en ville, un coup à la campagne. Ça me permettait de me recentrer et finalement, ça a été la chance de ma vie. J'aurais aimé que ce soit la musique, mais bon, la musique n'a pas voulu de moi. En tout cas, le dessin et la peinture m'a accueilli. Et puis, bah, le jour où j'ai compris ça, bah, ma vie s'est trouvée quand même bien simplifiée, parce que j'avais quand même une étoile qui brillait au-dessus de moi, qui m'a un peu aveuglé à certains moments, à tel point que j'y voyais plus rien. Mais en tout cas, j'avais ce point-là qui m'attirait. quand j'ai découvert la musique, et plus particulièrement le mouvement qui est né aux USA, puis qui a vraiment prospéré en Angleterre, qui est le mouvement punk, pour moi, ça a été quelque chose de vraiment important. Il y avait une voix, j'entendais une voix, une espèce de révolte intérieure, j'arrivais pas bien à définir. Et ça a pris une forme artistique, la musique, mais pas uniquement la musique. Bon, il y a eu quelques films, films des Clash, Rude Boy ou The Great Rock and Roll Swindle ou d'autres films plus intimistes. Mais il y avait aussi tout ce qui était fanzine. Il y avait la prestation scénique aussi. J'ai beaucoup traîné dans les concerts et c'était aussi une forme d'art. Même si ils arrivaient avec des jeans déchirés et puis des coiffures négligées, en tout cas il y avait une attitude et il y avait quelque chose qui avait tendance à nous prendre un peu à la gorge et moi qui m'a vachement plu. Il y avait cette idée de ruer dans les brancards en fait. Et quand je dis ça, j'ai l'image de la campagne quand on devait piquer les bêtes pour les vacciner. Et il y en avait qui n'avaient pas envie de se faire vacciner. Et elle ruait un peu dans les brancards. Et des fois, c'était tendu quand on était dans l'enclos là, avec mon père. Donc voilà, il y avait des jeunes qui étaient un peu comme ces vaches qui n'avaient pas envie de se faire vacciner et qui n'étaient pas franchement comment dire, agressives, mais qui n'avaient pas envie de se laisser faire en tout cas. Alors j'ai fait des fanzines, j'ai fait des affiches. J'ai tenté de jouer dans des groupes de musique, mais ça jamais vraiment donné quelque chose de satisfaisant, hélas. Mais je me serais bien vu à l'époque chanteur dans un... Pas chanteur, mais plutôt bassiste dans un groupe de rock. Vraiment. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Qui avait une énergie créatrice folle, il y avait une espèce de faune, il y avait des rendez-vous aux quatre coins de la banlieue, dans des caves, dans des MJC, on se retrouvait pour voir des groupes improbables qui venaient de toute la France ou de l'Europe. Bon, peu de gens autour de moi comprenaient pourquoi j'aimais cette musique. Mais ça renforçait les liens que j'ai pu tisser avec... Les gens qui sont devenus mes amis à l'époque et qui partageaient mes goûts. Et cette espèce de volonté de rester en marge un peu et de regarder un peu s'écrouler Babylone parce qu'on commençait à prendre conscience aussi de l'absurdité du monde dans lequel on vivait, quoi. Ça apparaît de manière criante en ce moment. À l'époque, c'était pas si évident. Il y avait quand même 2 millions de chômeurs, on commençait à se poser des questions. Mais il y avait encore une prospérité, des points de croissance, on n'avait pas de pétrole mais des idées, enfin la société était encore assez riante, quoi. Mais je sais pas, peut-être que le côté précurseur de ces punks anglais nous montrait que le futur, non, c'était pas ça. Et ils ont eu raison parce qu'on a suivi leur trace. Le statut d'artiste, ça a été plutôt ce que je savais faire, ce que j'aimais faire, c'était le dessin, et plutôt la bande dessinée, qui était plus rock'n'roll que la peinture en fait. Et puis en passant le concours des arts déco, je refais un peu de peinture aussi, parce qu'il fallait aussi avoir un petit travail de dessin d'observation à présenter, donc je refais un peu de peinture, j'en avais fait dans mes études d'architecture. Mais ce qui m'a passionné à l'époque, c'était la bande dessinée. Et là, la bande dessinée, ça a été un peu l'étoile dont je parlais tout à l'heure, qui m'a fait avancer, mais qui a fini par m'aveugler à un moment donné. Et au bout de quelques temps, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Enfin, c'était pas... moi, j'y arrivais pas, tout simplement. J'avais toujours des projets qui aboutissait pas. Quand j'arrivais à être à peu près content de moi, je le proposais à des éditeurs, ça marchait pas. Bref, il y avait que les fanzines qui acceptaient mes dessins. Et encore, là, je faisais pas de bande dessinée pour le. Ou un petit peu pour les fanzines. Mais enfin, rien de satisfaisant. Donc un jour, j'ai décidé de tirer la page, de tourner la page sur la bande dessinée. Ouais, c'est beaucoup de pages qui se tournent, en fait, ma vie. Et en arrêtant de courir après cette chimère qui était pour moi la bande dessinée, bah, je continuais quand même à travailler l'illustration, du coup, pour gagner ma vie, parce que là j'avais commencé à gagner ma vie en faisant du dessin, plutôt presse enfant. Donc j'ai fait pas mal d'illustrations que j'ai commencé à vendre cette fois. Et alors évidemment pas du tout dans le milieu alternatif dans lequel je traînais, mais plutôt un milieu plutôt installé, de la presse pour enfants et plus tard de la presse plus généraliste, plutôt syndicale, politique et associative aussi. J'ai beaucoup bossé pour une association qui s'appelait les CMA. Des presses, c'était plutôt des presses qui délivraient un message quand même, même si c'était pas le message révolutionnaire que j'aurais pu promouvoir à une époque. C'était une forme de presse qui invitait à réfléchir, du moins. J'ai eu le sentiment assez tôt qu'il fallait que je passe mes journées à dessiner si je voulais avancer dans ce travail. Peut-être parce que j'avais des envies de développer mon travail pour arriver à un point que j'ai atteint maintenant. Je ne sais pas, en tout cas à l'époque j'en étais loin. Mais j'avais le sentiment qu'il fallait que je fasse que ça. Et pour faire que ça, je me suis rendu compte que bah, je ne pouvais pas bosser sur les marchés comme j'ai pu le faire en même temps, ou dans les supermarchés, parce que c'était à peu près les seules expériences que j'ai pu avoir. Ou alors faire de la mise en page sur ordinateur. J'ai senti qu'il fallait que l'essentiel de mon temps et de mon énergie soit consacré à cette quête, en quelque sorte. Mais du coup, bah, la contrepartie, c'était qu'il fallait que je gagne ma vie aussi en faisant ça. Donc gagner ma vie en faisant ça, bah, ça a été aussi de trouver des clients et faire des sortes de compromis qui me permettent de gagner de l'argent en faisant ce travail, tout en restant fier de moi quand même. Donc j'ai balayé assez tôt tout ce qui était un peu communication, mais surtout publicité, où il y avait une forte demande en illustration, pour privilégier justement des supports moins rentables et plus confidentiels, mais de magazines plutôt d'opinion ou qui engageait une réflexion. Pour moi, ça a été vachement important, ça. Et à l'époque, je me rendais pas bien compte de ce qui est devenu une évidence depuis pour moi, mais il y avait quelque chose qui me déplaisait, en fait, parce que j'ai démarché quand même des agences de communication. Et j'ai rencontré des gens qui me plaisaient pas du tout, en fait. Mais vraiment pas. Et quand j'ai pu faire des collaborations avec eux parce que ça se présentait, bah ça se passait mal. Et puis je me suis fait avoir aussi. Et du coup, à un moment donné, j'ai préféré me tenir éloigné de ça. Et puis après, je me suis rendu compte en avançant dans mon parcours que eh ben, quand on est artiste, on a quand même, on doit avoir une éthique. Et pour moi, les gens qui bossent dans la communication, c'est des artistes aussi, même si, ils veulent pas se considérer comme tels. Pour moi, un photographe est un artiste. Pour moi, toute personne qui fait des images et qui la donne à voir est un artiste. Alors, on a érigé la figure de l'artiste comme étant au sommet de quelque chose, une espèce d'aristocratie de la culture. Mais moi, qui viens d'un milieu populaire et qui ai toujours aimé l'art populaire, pour moi, il y a de l'art partout. D'avoir une expression artistique. Eh bien, ça peut emprunter plein de formes différentes. D'ailleurs, ce que je fais en ce moment là, ça le prouve, c'est que je fais à la fois des illustrations et à la fois quelque chose qui s'apparente plus à de la peinture, avec des expositions de peinture, mais ça peut prendre la forme d'installations aussi, ou de choses plus originales parfois. Mais en tout cas, j'essaie de le faire parce que ça me semble correspondre avec mon individu, tout simplement. Je ne me pose pas la question forcément de la réception que ça va avoir, mais je me pose la question de savoir est-ce que ça a du sens pour moi. Et après, si ça a du sens pour moi, eh ben, je le fais. Et puis quand je vois que ça trouve du sens chez les autres, alors là, ça me stimule. Et alors les premiers temps, ben, il n'y avait pas Internet. Et à l'époque, ça avait ça de bien qu'il n'y ait pas Internet. C'est que ben, les gens étaient disponibles pour nous recevoir. Donc j'ai fait des rencontres. Et il y a quelque chose qui est passé. Des gens m'ont fait confiance. Au-delà du travail un peu maigrelet que je leur présentais, qui n'était pas bien, encore bien aguerri. Mais il y a eu dans ces rencontres des choses qui sont passées, ils m'ont fait confiance, et certains pendant de longues années. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc ça a été important. Mais à l'époque, on ne se représente pas bien maintenant que notre monde est devenu si fermé à cause d'Internet, qu'on pouvait rencontrer les plus grands directeurs artistiques de Paris. Enfin, moi j'en ai rencontré chez le groupe Marie-Claire, alors là c'était un peu le top de la culture magazine. Télérama aussi, qui faisait la pluie et le beau temps. Les Inrecuptibles, qui sont devenus un truc énorme, mais que moi j'ai rencontré à leur début. Donc on allait dans les bureaux, on les rencontrait, on voyait l'ambiance qu'il y avait, il y avait un peu d'humanité dans ça. Maintenant je m'aperçois que depuis quelques années, je prends contact avec les gens, envoyez-moi un lien vers votre site. Et du coup, je continue à faire mes voyages à Paris pour essayer de rencontrer les gens que je ne rencontre plus. Du coup, j'ai traîné dans les musées, ou alors je vais rencontrer des gens avec qui je travaille déjà. Et ça, je trouve que c'est. Enfin, moi, ça me désole. Parce que un magazine, pour moi, c'est le sommet de l'iceberg. Il y a tout ce qu'il y a dessous, il y a des gens, il y a une rédaction, il y a une émulation, il y a des idées, des idéaux qui grouillent dans une salle de rédaction. C'est chouette de rentrer là-dedans, ça court dans tous les sens, surtout dans les quotidiens. Et quand on arrive et qu'on est jeuneau avec son petit carton à dessin, on ne sait pas où se mettre. J'étais un peu balbutiant, rougissant et transpirant dans les débuts. Mais c'est une mise à l'épreuve, c'est aussi une manière aussi d'être admis, même si j'ai essuyé beaucoup de refus. C'est aussi une manière d'être admis dans ce monde.
Près de l'au-delà, près de l'eau de la fontaine, près de l'eau de la fontaine, près de l'eau de la fontaine, se trouve ma mécène que j'aime autant que les arbres, le vent qui battent le temps d'une mesure, et au fur et à mesure que le chant avance, la faune et la flore, et les métaphores entrent en transcendance, en transe. Dieu de toutes les fibres, il est beau le bruit du bois, il est beau le bois, il est beau, 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 il est beau le bruit du bois, il est beau le bois duquel je viens, et je viens vous dire que j'ai rien à dire, mais que l'on respire mieux là-bas sur le haut plateau, près de l'eau de la fontaine qui insuffle la vie. Et du zéphyr, celui qui inspire à la transformation, la transformation. Des dieux, dieu du feu, dieu de tous les chaînons, je ne mangerai pas ta pomme, pas ta pomme, pas ta pomme, pas ta pomme, pas ta. Non, je ne mangerai pas ta pomme, non, je ne mangerai pas de ta.
ta nourriture. Nourriture d'une terre dont la sève est sûre et le fruit amer d'une culture forcée par la main de l'homme qui en dépit des dieux. Ceux qui avec nous sont prêts à tout pourvu qu'on leur laisse la trace.
Dikangarn, la transformation. Si j'ai choisi, c'est aussi parce qu'elle traite de cette problématique, la ville, la campagne, la nature, ce que nous apporte la nature. C'était une époque où, pour moi, où ça commençait à reprendre un peu de sens, la province, entre guillemets. La campagne plus tard, mais en tout cas, partir de Paris, ça commençait à prendre sens. À cette époque-là, en fait, j'avais déjà fait une première tentative avec ma femme et mon premier enfant pour m'installer dans la Drôme. Et je ne connaissais pas cette région. Et lors d'un voyage d'été, on a découvert quelque chose qui était vraiment très différent de la Sarthe, pour moi. Une campagne un peu plus riante, où on cultivait de la vigne pour faire du vin, des abricots. Et ouais, il y a eu quelque chose, il y a eu le soleil, un petit avant-goût du midi quand même quelque part. Et là, il y a eu une grosse attirance pour qu'on s'installe là avec ma femme. C'était en 90. Ouais, on était jeunes parents, hein, puisque notre fils est né à Saint-Vallier. Notre fils est né à Saint-Vallier. Mais là, je veux dire que la greffe n'a pas vraiment pris, surtout pour moi. Du coup, on est reparti en région parisienne. La banlieue, c'est des gens de partout. Dans mes études, j'ai rencontré des Iraniens, des Marocains. Quand j'étais jeune, il y avait des Algériens, beaucoup, des Martiniquais. Après, on a rencontré des Chiliens quand on était du côté de Fontenay-sous-Bois, où il y avait une forte diaspora latino. Des gens de Côte d'Ivoire. Enfin, c'est un creuset de population fantastique, hein, la banlieue parisienne. Et ça, c'est vraiment le bon côté des choses. Et du coup, à un moment donné, j'étais dans une phase un peu dépressive, justement, en remontant de la Drôme en région parisienne, parce que là, le contraste était saisissant. On se retrouvait au-dessus d'une avenue passante, avec un arrêt de bus juste en bas de chez nous, dans une montée. Donc quand le bus remontait, redémarrait, après avoir pris les passagers, ça faisait vibrer les vitres non double vitrage de notre appartement d'époque. Avant, il y avait, puis je crois qu'il y avait eu le meurtre d'un policier juste au moment où on emménageait à Fontenay-sous-Bois en remontant de la Drôme. Donc il y avait tout un contexte qui m'avait emmené sur une pente un peu dépressive. J'avais du mal à trouver des clients. Et là-dessus naît mon deuxième enfant, qui est une petite fille, en 95. Et là, je me dis, bon, faut arrêter de travailler dans ta chambre. Déjà, l'espace vital dans la maison se réduisait, du coup. Et puis, des enfants à la maison, ça prend de la place. Et du coup, moi qui travaillais dans ma chambre, j'ai senti quand même qu'il fallait que je prenne une décision. J'ai cherché un lieu où m'installer pour travailler et j'ai trouvé un local qui n'était pas très cher, qui n'était pas très grand, qui n'était pas très beau, mais où il y avait deux autres personnes à l'époque avec qui j'ai partagé mes questionnements, avec qui j'ai partagé des contacts, avec qui j'ai partagé des mauvaises humeurs aussi, des repas, des rigolades. La vie, quoi. Je me rendais compte que d'être dans une démarche créative, c'était pas rester tout seul chez soi à attendre que l'inspiration vienne, c'était aller à la rencontre du monde. Et là, pour le coup, j'étais verni parce que il y avait un linograveur, un illustrateur qui travaillait en linogravure, qui venait des USA et qui avait cette culture justement du phénomène artistique qui était loin de celle que j'avais, et même de celle qui était pratiquée en France. Aux USA, être un artiste, c'est travailler. On n'est pas artiste à ses heures perdues. C'est un vrai travail. Professionnel, on va dire, dans le domaine de l'illustration. Je tourne la page de la bande dessinée parce que je me rends compte que ça ne correspond pas et là il faut que j'en ouvre une autre. Et cette page, ce sera un retour un peu en arrière, ce sera plus quelque chose qui apparaîtra grâce à des études que je reprends après avoir. Beaucoup dans l'échec de mes études supérieures. Je reprends des études en art plastique. Et alors, c'était. Je crois que je fais souvent les choses sans trop réfléchir. Une personne m'a dit un jour que j'avais un côté prime sautier dans ma démarche. Et ben, je trouvais que c'est un côté sautillant et j'ai trouvé ça sympa ce qu'elle m'a dit. Et puis après, j'ai regardé dans le dictionnaire. Et en fait, c'était qui agit sans réfléchir, pour faire simple. Donc, c'était pas vraiment un compliment. C'était vous êtes fourré dans une situation un peu embarrassante. C'était une directrice de mémoire d'art plastique qui m'a dit ça à l'époque où je m'étais inscrit là à l'université de Saint-Étienne. Sans trop savoir en quoi consistait réellement un mémoire d'art plastique. Donc voilà, prime sautier. Et en fait, quand je revois ma vie, j'ai souvent agi de cette manière-là, sans trop réfléchir, et emprunté des chemins qui m'ont amené ailleurs que là où je pensais aller. Et en fait, reprendre des études, c'était parce que j'en avais marre de la vie d'artiste et j'avais besoin d'une forme de stabilité que j'avais pas à trouver, j'arrivais pas à trouver. Et j'ai pensé à l'enseignement. Mais en fait, je me voyais bien prof de dessin. Donc j'ai passé une licence par correspondance, sans trop de difficultés, puisque j'ai eu deux, trois équivalences. Et puis j'ai fait ça en 3 ans. Mais en fait, là, ça a été une découverte parce que j'ai commencé à lire des textes théoriques, ce que j'ai pu arrêter de faire depuis, sur l'histoire de l'art, sur le processus créatif, sur des artistes, sur des mouvements artistiques. Et j'ai commencé à trouver un sens à tout ça et à renouer avec quelque chose qui, je me rendais compte, était au fond de moi et j'avais toujours cherché ailleurs sans savoir qu'il était au fond de moi. C'était à trouver un terrain d'expression en fait et fabriquer mes outils pour exprimer ce que j'avais à exprimer. les expériences que j'ai eues comme prof au collège en art plastique, ça ne m'a pas franchement emballé. J'en ai fait, hein. J'ai fait sur une année, puis après des remplacements un peu plus ponctuels. Ça ne m'a pas emballé, je ne me suis pas trouvé à l'aise là-dedans. Bon, je crois que c'est vraiment un boulot en soi, en fait. Ça demande une énergie, une disponibilité qui me laissait peu de temps en fait pour travailler ce que j'avais vraiment envie de travailler. Ça, je l'ai trouvé par la suite après, dans un lycée qui préparait les jeunes à un bac technologique d'art appliqué, où j'ai enseigné pendant 5 ans. Et alors là, j'ai trouvé quelque chose vraiment qui faisait écho avec mon parcours et dans lequel je me sentais plus légitime, on va dire, que dans un cursus d'art plastique au collège. Après avoir partagé plusieurs ateliers sur Paris et région, dans des petites surfaces avec d'autres gens, plus ou moins exigus, donc plus ou moins les uns sur les autres, j'ai eu la possibilité, dans la rue Pêcherie de Romans, d'avoir un local qui avait une vitrine, et que j'ai eu pour moi seul, excepté un temps où j'ai partagé avec un graphiste, parce que j'ai toujours aimé cette idée du partage, des expériences. J'avais un grand espace, et j'avais des murs entiers où je pouvais coller des feuilles, punaiser, et travailler sur d'autres formats, et de rentrer plus dans un corps à corps avec la peinture, dans une attitude qui peut être parfois un peu crispée quand on fait une illustration, on est assis la plupart du temps. C'est un travail d'OS, hein, d'ouvrier spécialisé, l'illustration. Je ne parle pas de ceux qui font des BD, hein. Eux ils sont chevillés à leur table, et ils passent des heures et des heures à faire leurs planches. Quand on fait des illustrations, il y a quand même cette dimension aussi d'une production et de devoir se contraindre à des choses quand même. Et là, dans ce local qui était grand, qui me laissait des espaces vierges, a commencé à prendre forme des choses qui m'étonnaient moi-même, en fait. Et j'avais pas du tout de plan préétabli. Mais il y a des choses qui sont apparues au départ pour me faire du bien, en fait, pour travailler mon dessin et des exercices. Et puis ces choses, je les ai trouvées suffisamment dignes pour être un peu mises en valeur. J'ai fait les premiers encadrements, première expo, et puis il y a des choses qui, de fil en aiguille, qui sont apparues comme ça. Et ça a été vraiment là, le début de quelque chose. Et ça, la confrontation avec le public, elle est vraiment essentielle. Et puis, pour moi, il n'y a pas d'autre. Internet et la culture sur Internet que nous vend depuis le confinement, pour moi, c'est un accès, c'est une porte d'entrée. Mais alors, faut surtout pas s'en contenter. Faut que ce soit un premier contact qui donne envie d'aller voir. Mais faut surtout pas s'en contenter. Or, qu'est-ce qui se passe là, depuis un an? On a fermé musée, lieu de culture. Là, je crois que c'est la pire chose qui pouvait arriver au monde de la culture, c'est qu'on se retrouve à plus pouvoir vivre cette expérience du direct, de la confrontation, d'une lumière, d'un lieu, de gens qui sont dans ce lieu, de matière, de comment est faite l'œuvre, de dimension, enfin. Tout un tas de choses qui sont tellement niées sur les grands ordinateurs. J'ai découvert des gens qui faisaient des boulots vraiment, mais vraiment intéressants. Et pour ça, ils n'avaient pas besoin d'être des vedettes, en fait. Parce que le piège aussi, ce serait de se dire, comme j'ai pu me le dire à une époque où j'ai commencé à avoir des supports qui avaient un peu de notoriété, c'est de se dire il faut que j'aille vers ça parce que c'est tout le monde parle que de ça en fait, Et en fait, c'est un piège parce que beaucoup s'y sont brûlés les ailes hein, à ce jeu-là de la notoriété. Et beaucoup parmi les plus célèbres des artistes dans le domaine de la musique, la liste est longue, hein, des gens qui sont morts prématurément, qui ont été bouffés par un système qui les a complètement broyés. Donc, faut se méfier de ça, hein, je pense. Il faut avoir le sens des réalités, savoir aussi pourquoi on fait les choses, où on met les pieds, et puis garder quand même, j'ai l'impression, et c'est ce que j'ai essayé, tenté de dire aux élèves que j'ai pu croiser dans mon parcours dernièrement, c'est de dire ben, il y a de la place pour tout le monde, et ce qui est important, c'est que vous trouviez vous-même ce que vous avez envie de dire aux autres. Partant de là, dites-le. Et lors du premier confinement, j'ai repris cette idée qu'on m'avait proposée quand j'étais jeune, artiste, d'utiliser des panneaux d'affichage municipaux. Et j'avais quelques grandes peintures que j'avais faites pour une exposition dans une abbaye à Léoncelles, que je n'avais pas utilisées, que j'avais rejetées parce qu'elles ne me semblaient pas valables. Et dans ce cadre-là, je les ai un peu retaillées, je les ai mises en forme, et dans ce cas-là, elles allaient très bien. Et j'ai beaucoup aimé cette idée d'utiliser un espace public à une époque où tout le monde autour de moi m'envoyait des liens pour aller voir ce qu'on faisait de fantastique sur Internet, des chorales, des machins, des trucs. Moi, ça me barbait. Et du coup, ça a été quelque chose d'assez salutaire pour moi. Surtout, je les ai mises, ces peintures, sur un chemin, que j'emprunte entre chez moi et mon atelier. Donc je les voyais tous les jours, ça me rassurait sur mon existence. Et puis ça me permettait de les surveiller aussi, de voir comment elles allaient être recouvertes. Et elles ont été recouvertes, effectivement, par le parti de gauche, dans un premier temps, qui voulait sauver l'hôpital public. Alors ça, j'étais tout à fait bien, d'autant que les couleurs allaient bien avec mes peintures. Et puis ils étaient très respectueux du motif. Ils se mettaient un petit peu là où il y avait de la place, on va dire, sur mes peintures. Mais après, il y a eu un prétendant à la mairie de Romans qui s'est pas embarrassé, qui a tout arraché, les affiches du parti de gauche, mes peintures, et puis qui a placardé ces messages qui avaient un brin qui était un peu sous forme de délation contre le maire actuel, envers qui j'ai pas beaucoup de sympathie. Mais là, j'ai trouvé pas sympa parce que ces affiches n'étaient pas signées. Et puis, bah oui, tout avait été arraché. Bon, puis je me suis dit après, bah, c'est la loi hein, de l'espace public. C'est comme ça. Mais j'ai bien aimé ce petit temps où mes peintures ont pu être vues par des gens qui ont vu que c'était mon travail et qui m'ont contacté après. Certains m'ont remercié de ce geste qui m'a pas pris trop de temps. Mais qui était important pour moi quand même. C'était important de le faire à cette époque-là. J'entends cette musique que je connaissais pas, on me dit que c'est Gorecki. Et alors là, je me suis senti bien, comme rarement dans ma vie j'ai pu me sentir bien. sortons du confinement, allons à la rencontre des lieux et des artistes et des œuvres. Je pense que c'est vraiment essentiel à notre époque. Il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir. Donc, si on veut promouvoir une agriculture locale, eh ben, promouvons un art local aussi, de proximité.
C'était Recto Verso, une émission réalisée avec la complicité de Léo, Laure et Anne. Avec, aux commandes musicales, à la composition et au montage, Florent Hermet. Ce voyage vous a été proposé par Vanessa Longepierre et Radio BLV.